Frères et sœurs, les amis, le dernier verset de l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire que nous connaissons bien, et je le cite, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Souvent, nous employons et nous nous servons de ce verset pour souvent nous justifier de quelque action que ce soit. Mais laissons ça de côté, si vous le voulez bien, pour réfléchir ensemble et méditer sur la première lecture, celle du livre d'Isaïe, et voir quel peut être le lien avec l'évangile de ce jour. Nous savons très bien, et nous le disons à chaque lecture, que lorsqu'un texte se termine par « parole du Seigneur », c'est une formule qui termine les textes, je viens de le dire, pour nous alerter ou nous proposer que ce qui vient d'être lu n'est pas la parole journalistique, c'est la parole de Dieu, et donc, en quelque manière, le projet de Dieu que porte cette parole. Alors, à écouter les quelques versets d'Isaïe dans cette première lecture de ce dimanche, on semblerait être propulsé tout d'un coup à la fin des temps. Ce qui peut expliquer peut-être le ton un peu solennel de ce passage. Pourquoi ? À la fin des temps, parce que nous avons trouvé le terme « gloire ». C'est un mot qui rayonne. Qui rayonne de quoi ? De la présence de Dieu. Autrement dit, la gloire, au sens littéral du terme, « ils verront ma gloire » signifie qu'ils me reconnaîtront comme le seul Dieu, c'est moi qui motiverai à la fois leurs actes et leurs pensées. Et cette gloire illuminera désormais toutes les nations. Alors voilà encore un mot, nation, qui revient plusieurs fois dans ces quelques lignes. Alors ce qu'il faut savoir et se rappeler tout au moins, c'est que dans la Bible, on n'a pas toujours parlé de manière positive des nations. Dans le livre du Deutéronome que je cite, on parle des abominations des nations. Pourquoi abomination? C'est pas que les nations ou la nation proprement dite soit mauvaise, mais qu'elle est porteuse, surtout dans le contexte qui est le nôtre, du polythéisme, c'est-à-dire de la pratique religieuse en général, des sacrifices humains à plusieurs dieux, etc., etc. Alors, nous voyons bien que l'irruption, si je puis dire, de Dieu qui va choisir un peuple, ce qu'on appelle le peuple élu, et qui va tenter de s'y attacher sans partage, est à l'inverse de ce polythéisme, bien sûr. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Nous rappelle le psaume 95. Et donc c'est se persuader que les dieux des nations, ou ce polythéisme n'est que néant, n'est que tromperie pour finir, et nous égare complètement de l'unicité de Dieu. Par contre, et c'est l'autre facette pour vous montrer aussi une fois de plus qu'il y a des, non pas des ambiguïtés, mais qu'il y a des formes contraires qui peuvent apparaître dans un mot, dès la personnalité d'Abraham, il nous est bien rappelé que c'est l'ensemble des nations qui est appelé à participer à la bénédiction promise par Dieu au patriarche qu'est Abraham. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », nous dit le livre de la Genèse au chapitre 12. Alors nous pouvons nous poser cette question, Dieu serait-il en contradiction avec lui-même? D'un côté, on nous dit que les nations, c'est de l'abomination à cause du polythéisme, et d'un autre côté, on nous dit qu'au travers du patriarche Abraham, toutes ces nations sont bienvenues. Alors il est évident que si Dieu est unique, il est évidemment aussi unique pour toutes les nations. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et le peuple élu, qui est le peuple juif, comprendra peu à peu qu'il est le frère aîné et non pas le frère unique. Et c'est ici que nous pouvons trouver le lien avec l'évangile. Le maître qui invite dans la parabole de l'évangile que nous venons d'entendre, ne veut pas dire que le maître a de la mauvaise volonté dans son invitation, mais ce sont les invités qui ne veulent pas comprendre qu'ils sont les premiers à recevoir l'invitation. Alors nous sommes donc en face d'une antériorité. Et l'antériorité, c'est que le peuple juif, le peuple élu, est, on peut dire, le fils aîné, tout simplement. Autrement dit, le rôle de ce peuple élu était justement d'ouvrir la voie aux frères cadets. Et en cela, nous pouvons comprendre que toutes les nations, bien sûr, sont bienvenues, mais il y a une antériorité ou une priorité. Vous choisissez le mot qui vous convient. Alors, comment va se faire ce ralliement des nations, si je puis dire? C'est autour d'un signe que les nations vont se rassembler. Je mettrai un signe au milieu d'eux. Et nous savons très bien, notamment dans l'évangile de Saint Jean, combien le terme et le mot de signe a de l'importance. Il suffit de nous remémorer le récit des noces de Cana, par exemple, où il est écrit « Tel fut à Cana de Galilée les commencements des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc nous voyons bien que la gloire de Dieu passe aussi par des signes, tout simplement. Et nous savons très bien que le signe a un symbole très fort. Il nous revient à l'esprit ce verset de Saint Jean, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Donc on voit bien que le signe ultime sera une personne, la personnalité même du Christ. Voilà la réalité de ce qui nous est donné à réfléchir et à méditer dans ces lectures de ce dimanche. Je vous invite, comme chaque fois, à prendre le temps de les relire, de, si je puis m'exprimer de cette manière-là, nager, non pas à brasse coulée, mais nager dans la parole de Dieu, c'est-à-dire s'en imbiber, laisser l'eau vivifiante de la parole de Dieu nourrir notre cœur, notre foi et notre intelligence, en nous rappelant, et cela me vient à l'esprit en cet instant, que le mot sacrement veut dire signe. Et donc, n'allons pas chercher d'autres signes que ceux qui nous sont donnés de manière immédiate, à savoir la parole de Dieu, et cette parole de Dieu faite chair, qui se donne en nourriture à chacun et chacune d'entre nous. Amen.